Salut à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode de Game Lovers, le podcast corse des amoureux de jeux vidéo. Aujourd'hui, en compagnie d'une toute nouvelle équipe constituée spécialement pour l'occasion, les Avengers,
les Avengers du Sud,
qui vont peut-être faire des jaloux, qui vont peut-être susciter des vocations auprès de nos compères de Balagne.
Non, il n'y a pas de concurrence, pas de concurrence
pas
avec,
pas de concurrence. Avec la Kiss de Balagne. Alors le monsieur que vous entendez, vous l'avez peut-être déjà entendu dans une cabine d'avion, vous parlez au téléphone.
Hein. Bah, moi, bonjour, c'est Frédéric.
Voilà, et il va se présenter. Alors Frédéric,
bah, steward Air Corsica, et aussi je gère Retro Arcade Game, donc fabricant de bornes d'arcade à Ajaccio.
Et il nous invite gracieusement dans ses locaux.
Voilà.
Il est très content de vous avoir. Enfin, gracieusement. Il m'a invité gracieusement. Je ne sais pas s'il a
les
fait payer.
Non, il n'a pas fait. C'est gratuit pour tout le monde.
Voilà, c'est un type formidable. Donc, Retro Arcade Game, on en profite, on fait un peu de publicité.
Allez, un peu de pub. RetroArcadeGame.fr, bande d'arcade personnalisable sur Ajaccio. Avec ou sans monnayeur, Pandora, Raspberry.
Donc, on peut vendre voilà, toutes sortes de consoles rétro et de bandes d'arcade rétro.
Jusqu'à 100 000 jeux. Voilà, on peut mettre même des PC, on met un peu tout.
On est dans notre élément.
Voilà.
Hein, voilà. En cette
après-midi. Je sais qu'il y a pas mal de fans de rétro gaming dans l'équipe. Game Lovers.
On est quelques-uns. On est quelques-uns, effectivement. Cyril nous accompagne également.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril. Je suis un gamer depuis assez longtemps, depuis, je dirais, mes 4-5 ans. Commencé sur Sega Master System et puis ensuite sur l'Amiga 1200 pour ensuite continuer vers d'autres machines plus évoluées. Et donc voilà, passionné avant tout de jeux vidéo et sinon métier, profession également, je suis steward en devenir chez Air Corsica. Voilà.
Un steward en devenir. Voilà. Donc on lui souhaite que la chose se concrétise.
Merci.
Et puis enfin sur ma gauche, vous la connaissez peut-être sous le nom de Cibou. Suivez sans doute vous la suivez déjà forcément. Et puis si c'est pas le cas, vous allez le faire. Hein. parce qu'elle est super sympathique et puis elle va prendre possession comme ça du micro pour se présenter. Ouais. C'est Cibou, la voici.
Tu vois, j'ai gardé la voix féminine. Je vous ai laissé parler tranquille.
C'est très vrai. Oui, c'est vrai. Elle va amener, est-ce qu'on en...
On a brisé les règles de la politesse.
Mais bon, c'est vrai, tiens, pourquoi on l'a fait? Alors, on l'a refait, Salut à tous. Donc, c'est Cibou,
donc Cécile. Je suis comédienne voix off à la base. Donc ça, c'est mon métier depuis 11 ans. Auparavant, j'ai été animatrice radio. J'ai planifié de la publicité sur Skyrock. Et maintenant, en parallèle de la voix off, ma deuxième passion, c'est de streamer sur Twitch. Donc, j'ai une chaîne Twitch depuis maintenant, depuis 2017, 2015 même en vrai, mais depuis 2017, vraiment.
2017, c'est la percée.
Ouais.
C'est la percée en top Twitch.
La percée sur Twitch.
Ouais. Comme tous les streamers partenaires, t'as ton moment de gloire et puis après ça redescend.
Ils disent le prime dans les sportifs.
Voilà, c'est quand tu vois
ils connaissent leur prime, t'es à ton prime et. Eh ben écoutez, on va souhaiter que la bascule se fasse le plus tard possible. aujourd'hui, au programme jeux vidéo et cinéma, pour cet épisode intitulé... comment on l'a intitulé jeux vidéo et cinéma, mais épisode numéro 4, rendez-vous manqué, point d'interrogation.
C'est ça.
Est-ce que c'est un rendez-vous manqué, cette association, cette idylle? Est-ce que c'est une idylle entre le jeu vidéo et le cinéma? Est-ce que vraiment il y a une histoire d'amour? C'est une histoire d'influence mutuelle, on va en parler.
Bah, d'influence mutuelle, oui, parce que le jeu vidéo s'est basé sur le cinéma pour raconter ses histoires.
Mm-hmm. Mais à la base,
d'une manière de raconter des histoires, c'était le cinéma. C'était le premier média où il y avait des images animées, donc le jeu vidéo a suivi un peu.
Ah, il y a eu le théâtre vivant.
Oui, non, là, on parle de multimédia, faire du montage, numérique. De la coupe.
Tout à fait. Donc, on va aborder ce sujet tout de suite. Mais avant, on vous rappelle la chose suivante, parce qu'on va continuer à faire un peu d'autopromotion. Après tout, ça mange pas de pain. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram notamment. Vous pouvez également nous écouter sur toutes les plateformes de streaming audio. On les cite à la volée tout le temps, alors rapidement. Hein. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, il y en a d'autres.
Deezer,
évidemment. YouTube aussi, on met les épisodes en dispo sur YouTube. Et il y a des petites surprises qui commencent à arriver sur YouTube, notamment du Let's Play en langue corse. Enfin, on vous laisse découvrir tout ça, on vous partagera tout ça sur nos pages, voilà, qu'il faut aller consulter, qu'il faut aimer, il faut partager. Voilà, donnez-nous de l'amour, on vous en donne. Voilà, soyons dans l'amour, soyons des polyamoureux dans le partage. Bien. Donc, le cinéma et les jeux vidéo, deux formes d'art récentes, qui datent du siècle dernier, qui se sont là, on a commencé à le dire, hein, influencés mutuellement. Qui a envie de prendre la parole sur ce sujet? Je sais pas pourquoi, je sens que Fred, il est...
Non,
je sais que c'est son dada, en fait. Pour ne rien vous cacher, je sais que le sujet est tenu à cœur. Non, mais
le cinéma et les jeux vidéo, donc les deux
sont... Tu peux nous donner ton préféré et ton celui que tu aimes le moins.
De par rapport.
Adaptation éventuellement si on parle
adaptation
jeux vidéo
de film que je déteste le plus, je pense que c'est Portal.
D'accord.
Ah, j'ai pas vu l'adaptation.
Moi non plus.
Mais j'ai un jeu que franchement dégueulasse. Bon, le jeu vidéo déjà était pas très propre.
Mais il était
ça passait parce que c'était un jeu vidéo très son degré et ils ont adapté ça de la même manière.
Aussi, non, et puis c'était la proposition de gameplay qui était innovante. Voilà, on y allait pour ça, voilà. On y allait pas pour autre
chose. Et le film est à copier-coller, donc du coup à l'image c'est très moche. Voilà.
Ouais. Il est filmé de la même façon.
Non, il n'y a pas du subjectif. Heureusement, ils ont évité ça, mais.
Encore que à la limite, ça aurait pu être considéré comme un exercice de style, tu vois, le fait de.
Non, c'est Doom qui est Doom. Il y a une phase. Le film Doom a une phase.
D'FPS.
D'FPS.
Alors FPS pour nos auditeurs, on précise toujours parce qu'on sait qu'on s'adresse avant tout à des profanes. On peut s'adresser à des profanes parmi notre public. FPS, ce sont des jeux de tir à la première personne, donc vous ne voyez que le fusil que vous avez entre les mains, enfin le fusil ou toute autre chose, hein, après tout. Il y a des jeux qui se sont proposés d'ailleurs de lancer des choses absolument absurdes, dont des animaux domestiques, voilà, des choses loufoques. Donc, mais voilà, c'est ce point de vue interne, en fait, et...
À travers les yeux du personnage.
Où on voit à travers les yeux du personnage et qui marche très mal difficilement au cinéma, qui a été tenté, hein, on l'a dit dans le James Bond, enfin tu en parleras peut-être plus tard.
Ouais, dans le James Bond, et oui, ça, cette scène un peu en FPS, un peu en vue FPS, voilà. Et le film Doom qui a repris ça, mais ça
paraît-il. Alors moi je le connais pas. Enfin, disons que c'est pas mes références cinématographiques en lien avec le cinéma, c'est pas celle-ci.
C'est pas la meilleure, hein, c'est sûr.
Non, mais
Portal, nous sommes des gens de vous.
Portal est sorti il y a une dizaine d'années, je crois.
Ouais.
Bon, Portal, qui a fait le jeu, parce que c'est l'occasion quand même de parler.
Qui a joué à ce jeu déjà?
Alors moi je l'ai fait, toi tu l'as fait?
Je l'ai fait.
T'as fait les deux ou?
J'ai fait que le premier. Fait le premier, bon.
Moi, j'y ai pas joué du tout, mais j'ai vu les speedruns qu'ils ont fait pour.
Okay. Ouais, ils s'y prêtent bien, parce qu'en plus.
C'est ça, pour la compétition Zilan qui avait eu lieu sur Twitch. D'accord. C'était, je sais plus si c'était la Zilan 1 ou la Zilan 2, mais.
Qu'est-ce que la Zilan pour nos auditeurs?
La Zilan, c'est une compétition de jeux vidéo multigaming qui est organisée par Zerator, qui est un des plus grands streamers français.
Okay.
Le but de cette compétition, c'est d'être en gros le plus fort, mais sur plein de jeux différents. Parce que d'habitude, les compétitions qu'on voit, c'est être super fort sur Fortnite et être super fort sur League of Legends, sur Counter-Strike, etc. Zerator a décidé d'organiser une compétition où faut être, pour gagner, faut être fort sur 10 jeux différents.
D'accord,
le décathlon.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai, le décathlon du jeu vidéo.
Totalement. Et donc, une année, il y avait un speedrun. Donc, les speedruns, c'est faire un jeu le plus rapidement possible sur Portal. Et c'était assez impressionnant à voir.
Oui, parce qu'en plus, il se fait déjà plutôt rapidement, hein. Vous êtes plutôt joueur, voilà. Ouais. Vous en avez pour que... J'allais dire à peu près la même chose. Et en fait, il avait innové par son gameplay à l'époque, Portal, parce qu'il vous permettait avec un pistolet d'ouvrir un portail en tirant dans le décor. En fait, vous ouvriez un portail et en tirant ailleurs dans le décor, vous ouvriez la sortie de ce portail. Et donc, ça permettait comme ça de traverser les environnements de façon beaucoup plus rapide et de résoudre comme ça des situations de puzzle. Et du coup, je pense qu'on comprend bien déjà, rien qu'à la description du jeu, pourquoi ça peut pas fonctionner.
Ça ne peut pas fonctionner au cinéma. Parce que le jeu vidéo, c'est le gameplay à la base. Et adapter ça dans un jeu, ça peut pas fonctionner.
Ouais. Et depuis quand est-ce qu'on sent un rapprochement entre ces deux médiums qui ont quand même évolué parallèlement?
Ils ont évolué parallèlement.
Pendant longtemps, qui se sont plutôt même copieusement ignorés. En tout cas, enfin, le cinéma regardait.
Donc, le cinéma restait un peu le dédain, oui.
Voilà, le cinéma regardait le jeu vidéo un peu de haut pendant longtemps. À partir de quand on commence à sentir d'une influence mutuelle ou des petits rapprochements? Vous le situez à quelle époque?
Moi, je dirais au passage à la PS1, PS2.
Ouais.
Tout à fait. Ouais, j'ai pas PS1 par rapport à Metal Gear Solid avec Hideo Kojima.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Je sens comme une passe décisive que tu es en train de lui faire, là.
Après,
ils sont collègues, hein. C'est comme ça, là.
On l'a pas travaillé.
Il y a de la synergie entre les collègues.
On l'a pas travaillé. Il y a pas eu d'entraînement, hein. Il y a pas eu d'entraînement.
Donc, on peut remarquer que dans le jeu vidéo, donc, Metal Gear Solid 1, au niveau du scénario, de la richesse au niveau des personnages, même de la mise en scène en jeu, Le créateur s'est inspiré du cinéma pour faire son jeu.
Ouais, alors bon, ben, tu veux parler de Kojima, puisque c'est l'occasion d'en parler.
Non, mais c'est vrai que lui, bon, ton doudou Kojima. On le présente souvent comme un réalisateur raté ou quelqu'un qui n'a pas réussi à faire du cinéma.
Tu as raison, il a cette réputation, cette étiquette, ouais, qui lui colle à la peau. Non, mais il est fan de cinéma.
Il est très fan de cinéma, il le raconte souvent. Toute sa jeunesse a passé dans des films, des cassettes vidéo, de films occidentaux, donc il a. Et il régurgite ça dans ses jeux, en fait. Voilà.
Et déjà, dès les premiers, alors avant même la 3D, on peut dire qu'il s'est inspiré.
Dans le premier Metal Gear, le premier sur MSX, je crois, c'était. Les personnages, Snake Plissken, il a tiré de New York 197.
Oui, voilà, en fait, il prenait les affiches de, comment on appelle ça? Tu sais, les miniatures des acteurs qui jouaient dans les films, et il les reproduisait.
Il reprenait
trait pour trait le visage de tel ou tel acteur dans tel film.
Donc, dans le premier Metal Gear, oui, on reconnaît
Rambo,
Rambo, il y a un peu tout le monde, hein.
Voilà. Il y avait Stallone, il y avait pas.
Il y a trois scènes qui est quand même,
Comment il s'appelle Voyage au bout de l'enfer.
Christopher Walken. Oui. Qui sert de base à Metal Gear Solid sur PS1, c'est Christopher Walken.
Oui, voilà aussi. Et est-ce que l'arrivée de la 3D, justement, et du coup des possibilités de mise en scène un peu plus...
C'est le placement de la caméra, en fait.
Ouais.
Qui a permis justement de bouger dans le décor et de faire des angles de vue.
Pour ne rien vous cacher, j'ai pensé à ça en voiture. Je me suis dit, tant que le jeu vidéo était à plat... Et en fait, comme tout média, en fait, tant qu'il est à plat, c'est très difficile de faire vivre une mise en scène.
Tu peux le faire pour la narration. Pour du texte, tu peux le faire, mais dès que tu es en 3D, oui, bah, tu peux placer ta caméra où tu veux.
Il y en a qui arrivent, récemment, tu vois, je pense à des jeux en 2D comme Celeste, comme Hollow Knight, il y en a peut-être d'autres, mais qui arrivent peut-être à faire vivre
une histoire.
Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a de la mise en scène quand on est en 2D? Comme tu dis, tu vois, la caméra, est-ce que le fait de pouvoir libérer...
Tu as une caméra qui est fixe, c'est difficile de donner un angle de vue, d'exprimer quelque chose par la caméra, en fait.
Alors, c'est pas juste une histoire de liberté de caméra, parce que je pense, tu vois, une caméra qui est fixe.
Oui.
Mais dans un environnement en 3D, te donne pas du tout la même sensation. Tu vois, Resident Evil, par exemple, c'était une section de caméra fixe. Pourtant, un plan fixe au cinéma, avec des gens qui évoluent à l'intérieur, mais dont on comprend bien que c'est un environnement en 3D, ça peut permettre quand même un peu de montage, c'est déjà un peu plus,
le placement de la caméra, tu vois, Resident Evil, par exemple, le premier, le fait de mettre la caméra dans certains angles de la pièce, on était surpris par l'arrivée des monstres et du coup la tension montait comme ça, en fait.
Et à partir de quand vous commencez à percevoir une influence contraire, c'est-à-dire à partir de quand le cinéma, lui, commence à regarder ce que fait le jeu vidéo? Parce que le jeu vidéo a probablement toujours regardé ce que faisait le cinéma et s'en est inspiré.
Oui, pas longtemps.
Parce qu'il y a eu très vite des adaptations ratées.
Après, c'était purement commercial, je pense. Un jeu vidéo marchait, on avait le droit à son adaptation en film, ça arrivait. On a eu Super Mario, on a eu Mario, voilà. Mario en film, c'est une hérésie.
C'était terrible.
C'est une hérésie.
Blade Runner mélangé à Mario, ça n'avait aucun sens.
Aucun sens.
Mario était la première adaptation d'un jeu de cinéma.
Ah, c'est la première.
Après, ça dépend. Pour ma part, j'avais vu très jeune et peut-être un peu la nostalgie qui parle, mais je garde malgré tout dans le souvenir d'enfant.
Je garde un bon souvenir.
Mais c'est sûr que si peut-être maintenant je le regarde à nouveau, là...
Tu avais peut-être déjà mauvais goût quand tu étais jeune, on ne sait pas. La vacherie, j'ai...
Il a bon goût, il a cité Kojima.
Non, plaisante.
Il y a plein de films comme ça qu'il vaut mieux pas revoir à l'âge adulte parce que...
Willow. Je l'ai jamais découvert gamin, je l'ai vu à l'âge adulte, c'était un drame absolu.
Oui, voilà,
je l'ai jamais compris, tu vois.
Le film générationnel, tu le rates petit, mais tu l'as raté parce qu'après tu...
Exactement.
La
découverte adulte.
Le regard adulte.
Qu'est-ce que vous voulez? On perd de sa naïveté en route, hein. C'est comme ça. On devient gris. On devient aigri. On devient terne.
On fait des podcasts pour cracher sa haine.
Tu crois que tu as l'impression que c'est ce qu'on fait? Non.
Non,
ne nous dites pas qu'on fait ça. Non, mais alors. Le jeu vidéo, lui, tout de suite, s'approprie quelques franchises du cinéma. Ou en tout cas, le cinéma qui commence à y avoir comme ça, un réel potentiel
souvent commercial.
Commercial. Tu vois, quand on fait de la commande pour avoir les premiers jeux vidéo E.T. ou les premiers jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y a eu très très vite?
Il y a eu Tomb Raider.
Ah non, mais dans l'autre sens. Quand un film marche bien et que la franchise se dit, ok, ce serait bien d'en faire un jeu vidéo histoire de capitaliser sur la franchise.
Terminator, tout le monde a eu droit, Star Wars.
Le cinquième élément.
Robocop, bien sûr, Robocop. C'était pas trop mauvais encore.
D'accord. Ah ben là, est-ce qu'il y a vraiment des réussites là-dessus sur le film et qui
quand oh, il y a quelques-unes, oui.
Enfin, le jeu vidéo qui est une commande à la suite d'un film et qui débarque de façon un peu goodies, genre allez, on vous livre.
C'est rare quand même. C'est rare d'avoir les Star Wars. Oui, deux trois bons titres Star Wars.
Indiana Jones, c'est raté.
Indiana Jones, non. Enfin, il y a les jeux Point and Click qui étaient.
Ah oui, il y a les Point and Click. LucasArts, qui était pas mal. Oui, t'as raison.
Voilà, mais sinon, non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande réussite. Hein, c'est...
Raison. Et dans l'autre sens, alors, Tomb Raider, les premières adaptations qu'on voit émerger du monde du cinéma, vers le cinéma. Tomb Raider, qu'est-ce qu'on en dit? Réussi, pas réussi, factice.
Moi, c'est pareil. Il date d'il y a si longtemps que j'en garde un bon souvenir, mais en fait, je pense qu'il y a un problème entre l'adaptation cinéma et jeux vidéo, c'est que les deux parties sont trop exigeantes. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir joué à Tomb Raider et qui vont avoir adoré le jeu, ils vont aller au cinéma et vont forcément être déçus parce qu'en fait, t'as cette découverte quand tu lances le jeu et que tout est nouveau. Et donc, si le cinéma veut l'adapter correctement, soit ils copient-collent et à ce moment-là, bah, les gens vont dire « Ah bah super, ils ont rien inventé », soit ils innovent et ils vont dire « Ça a rien à voir avec le jeu ». Et dans tous c'est les vrai. Cas... Le public est trop exigeant, capricieux, ouais. Entre guillemets, mais je me mets dedans aussi, hein, attention. Mais moi, je pense que faut voir un univers que vous aimez bien, aller le voir au cinéma et vous dire que ça va pas être la même chose, mais que ça...
Ça peut pas être la même chose, mais
je pense que c'est pour ça qu'il y a souvent des déceptions.
Est-ce que les deux médias s'adressent à deux communautés qui sont vraiment fongibles? Enfin, je sais pas comment le dire, mais est-ce qu'un fan de jeux vidéo... peut vraiment être fan de cinéma parce que tu vois si tu moi je sens que je le suis après je sais pas si c'est le cas au global. Mais cela dit tu vois j'ai pas du tout le même regard quand je lance un jeu et quand je regarde un film quand bien même hein il s'inspire
il y a pas les mêmes attentes déjà et puis il y a pas la même manière de consommer le média en fait
si tu me dis j'ai fait Tomb Raider par exemple et je suis allé au cinéma en espérant revivre mon expérience de gamer c'est
impossible
ça s'y prête pas à ce moment là t'attends Tomb Raider 2 et tu vas le faire sur ta machine et tu vois ce que je veux dire mais
C'est ce qui fait la différence entre un jeu et un film, hein. C'est que le jeu, tu as la manette en main, c'est toi qui.
L'interactivité, elle change.
C'est toi
tout.
Qui commandes, tu ressens les choses différemment qu'au film. Le film, tu reçois, là, au jeu, tu participes, tu.
Puis si je peux me permettre, c'est que.
Tu peux te permettre.
On passe une dizaine d'heures de jeu dessus, donc on peut pas s'attendre à un film qui dure 1h30, 2h, à avoir le même investissement sur l'histoire, sur l'approche au niveau des personnages. Donc forcément, il va avoir des raccourcis qui. Au final, le film aura un impact moindre sur le côté émotionnel.
Tu veux dire d'investir énormément de temps dans un univers fait que tu t'y attaches. Enfin, ben forcément, en termes de temps, t'as beaucoup plus de temps pour t'y attacher que...
En prenant l'exemple de Tomb Raider, je pense que c'est une quinzaine d'heures de jeu pour finir un jeu. Et Angelina Jolie qui était super dans le rôle de...
T'es super. Enfin, est-ce qu'il lui a fallu plus ou moins de 15 heures pour séduire le Tomb Raider? Oh, elle était séduisante quand même.
Après, pour moi, il est moyen.
C'est un peu comme le dernier Uncharted, le film.
Pareil, bah, il fait un beau carton.
Il fait un beau carton, mais bon, voilà. Il reprend des scènes du film, du jeu, des scènes de cascade. Mais bon, est-ce que c'est, tu aurais mis Indiana Jones 4, c'était pareil, tu vois, je veux dire,
c'est ça qui est assez curieux, c'est
on récupère
que tu
le nom, les personnages. Pour faire vendre, en fait, hein, tout simplement.
Quand commence la série Uncharted, qui doit commencer au tournant des années 2000-2010, globalement, tu sens bien que, pour ceux qui l'ont pas fait, hein, c'est un chasseur de trésors, mais vraiment, c'est très portrait Indiana Jones dans sa manière d'être, parce que...
Oui, désinvolte.
Cascadeur, désinvolte, séducteur, toujours la science du bon mot, et on cherche des reliques au beau milieu de la jungle, dans le désert, enfin bref, partout autour de la planète. Et tu dis, c'est un copier-coller, c'est une adaptation d'un Indiana Jones en jeu vidéo.
Et là, ça marche.
Et en fait, on est en train de faire le retour, c'est-à-dire que le cinéma a influencé la création de ce personnage, qui lui-même va
faire un film.
Bascule au cinéma pour une adaptation de la franchise qui...
Mais du coup, c'est
l'un dans l'autre marche commercialement, mais est-ce que c'est une vraie réussite?
Est-ce qu'au niveau qualité,
C'est juste pour faire vendre. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de secret. Quand il y a des adaptations comme ça, on sait que ça ne va pas être un bon film.
On prend le nom et on se dit,
On se dit, tiens, on va faire venir les gamers au cinéma parce qu'ils ont adoré Uncharted. Le jeu s'est vendu à tant d'exemplaires, donc ils vont venir.
Et quand tu es traité comme une communauté comme ça et qui a un porte-consommateur, qui a un portefeuille, tu vois, Ah, moi déjà, ça me
donne pas envie.
Ça me donne pas envie. Voilà. Alors il y a quelques films. Enfin, je sais pas si le film en plus c'est le bon format, tu vois, parce que justement il y a la contrainte temporelle dont Cyril parlait. Comment est-ce qu'on arrive à retranscrire une expérience qui dure parfois des dizaines d'heures? Comment on arrive à la condenser en quelques heures et que ça rende vraiment une expérience?
C'est très compliqué.
Enfin, tu vois, que l'expérience elle soit vécue de façon aussi intense. Pas similaire, hein, parce que...
Non, ça peut pas être similaire.
Comme ouais. Tu dis, t'es dépossédé de la manette, donc si t'es gamer, faut accepter de pas vivre la même chose.
Je sais pas si c'est vraiment faisable d'adapter un jeu vidéo en film. Parce qu'un jeu vidéo, c'est le gameplay, c'est la manière dont tu vas jouer, tu appréhendes toi-même l'aventure, c'est toi qui donnes les orientations.
Et justement, on y viendra tout à l'heure, de mon point de vue, et c'est très personnel, les jeux vidéo qui essaient de faire ça, de supprimer presque l'utilisation de la manette, ou de la traiter comme une télécommande...
Oui.
Je ne cible personne quand je dis droit, tu vois. Non, mais sérieusement, parce qu'en plus, on va en parler, parce que j'aime l'idée, mais j'avoue que moi, j'y suis pas sensible. Quand un jeu essaie de se dépouiller le plus possible du gameplay pour se rapprocher du film, avec énormément de mise en scène.
Tu as du mal.
Je comprends que ça marche, surtout quand on est sensible au montage et au, tu vois, tout le caractère cinéphile, tout ce que peut apprécier un cinéphile, mais j'avoue que moi, il me manque quelque chose.
Ah, après, je pense que c'est les styles de jeu qui juste te plaisent pas, parce que là, bon, tu voulais peut-être en parler plus tard, mais bon, on est dedans, je pense, mais bon, c'est les...
Allez, second des trois. Moi,
c'est ce qu'on appelle les let's play narratifs, c'est-à-dire que tu vas jouer, faire des choix qui vont impacter sur la suite de l'histoire, et c'est exclusivement ça, le gameplay du jeu. Mais du coup, l'intérêt de ce genre de jeu, c'est que la narration est infinie. C'est l'effet papillon.
Mais j'adore le principe. J'adore la proposition du jeu en branchement.
Ouais.
J'aime juste pas comment eux, ils le font, si tu veux.
C'est quoi qui te plaît pas, du coup?
Alors, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai l'impression d'être complètement dépouillé du gameplay. En fait, je suis juste, je choisis les embranchements principaux. Alors déjà, non, pardon, avant même ça, mais ça j'y reviendrai. Avant ça, je trouve qu'il y a des énormes clichés qui sont là juste pour justifier, juste pour faire croire en fait au spectateur ou au joueur que le type qui est derrière est un type brillant qui a pensé à tout, tu vois. Je pense à une scène de Détroit où on parque des androïdes au fond du bus, façon Rosa Parks.
Ouais.
Je trouve que c'est surligné, c'est beaucoup trop, c'est pas fin, et puis
oui, c'est pour rappeler la ségrégation raciale.
Oui,
c'est...
voilà, mais sauf que, enfin, je trouvais ça un peu hors de propos, dans le sens.
C'est fait à la truelle, quoi.
Voilà, exactement. Ça manque de finesse. Mais bon, ça, à la limite, ok. Mais non, pour le gameplay, ce qui me dérange, c'est que je vais davantage apprécier que ce soit fait façon un peu The Witcher, où tu dis, t'es dans une quête où ton personnage, t'as quand même tout un tas de variétés, de possibilités d'action possibles. Et à chaque fois que tu vas réaliser une quête, elle peut avoir...
On te raconte une histoire.
Une influence. Non, mais c'est surtout que ça ce que tu vas faire peut éventuellement modifier le scénario. Mais que juste tu laisses aller ton personnage, t'es jamais vraiment, comment dirais-je, d'action possible sur ce qu'il fait. On te demande simplement de choisir la façon dont il va te faire la vaisselle, tu vois. je trouve ça frustrant.
Est-ce que ce style de jeu narratif est inspiré du cinéma ou plutôt au niveau des livres dont vous êtes le héros? C'est des bouquins.
Ah oui,
mais franchement, pareil, comme dans les jeux narratifs.
Oui, quelque part, oui, c'est vrai.
Ça amène une autre page, et ensuite, vous avez une autre suite de
l'histoire. Mais pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est un style de jeu qui juste ne te plaît pas.
Ah oui, mais c'est ça. Mais je reconnais ne pas y être sensible.
Parce qu'au final, dans Detroit Become Human, justement, c'est... fait, enfin pour moi qui l'ai fait il y a pas très longtemps, comme un film en fait. Tu regardes un film, c'est juste que c'est toi qui choisis plus ou moins la suite du film, et pour autant il y a quand même des phases de jeu. Alors c'est sûr, c'est de la rapidité de clic, on va te demander de faire triangle très vite ou rond, carré, les QTE, et donc ça va.
Et tu vois, justement, on en discutait avec un ami la dernière fois. Moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est le fait qu'on te dise bon, mets-toi dans ton fauteuil, t'es spectateur, cool, apprécie-le comme un film. Et d'un coup, t'as une QTE qui débarque et qui te brusque en te disant « Allez, c'est maintenant, appuie sur la manette. » Et là, tu dis « Mais non, en fait, ça colle pas avec ce que vous voulez me faire faire. » Ou vous me mettez dans une position de spectateur, mais vous pouvez pas me demander dans le même temps d'agir assez vite, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu mal équilibré.
C'est des jeux très bien pour les streamers. Parce que c'est vrai que là, quand tu regardes un stream...
Tu peux le vivre comme un film, ça je suis d'accord.
Tu le vis comme un film, ouais. Le streamer, tu suis l'aventure du streamer. Et là, par contre, c'est agréable, tu vois. Mais t'es dépossédé de la manette complètement.
Sauf, alors non, les phases d'enquête sont très bien. Par contre, j'ai adoré les phases d'enquête où tu remontes dans le temps, ah, où tu, oui, enfin, oui, voilà, t'as un Android qui est
enquêteur. C'est un autre style de jeu, c'est vrai que c'est,
mais voilà, mais je reconnais.
Là, on est plus à cheval, voilà, c'est plus à cheval sur le cinéma, ou comme le livre doit être le héros, comme c'est Cyril, voilà.
Alors, ouais, est-ce que, je pense que pour la mise en scène, c'est vachement inspiré du cinéma. Mais vraiment. Parce que t'as vraiment des codes très, enfin, qui sont très, comment dire, qui se remarquent par rapport à ce que fait le cinéma. Tu vois, le fait de décaler, par exemple, dans un tiers de l'écran, ton personnage principal, le décaler soit dans le tiers gauche, soit dans le tiers droit, ça, c'est des astuces de mise en scène, tu vois. De sortir un peu de la mise en scène de façon champ contre champ quand il y a un dialogue. Ou la caméra au-dessus de l'épaule et tout, ça aussi, c'est des petites astuces de cinéma qu'on retrouve dans d'autres jeux, hein, pas seulement dans les jeux ultra scénarisés comme cela, tu vois. Mais donc là, je pense que ça vient du cinéma. Après, effectivement, le côté embranchement, c'est davantage.
C'est une catégorie de jeux vidéo.
De livres dont vous êtes le héros.
Inspiré du cinéma, ça c'est clair.
Ouais. Alors, il y en a quelques-uns. Vous avez fait. Il m'échappe.
Il parle de quoi?
God of War. Ah. Le dernier.
God of War, oui. Ouais.
Le dernier God of War.
Parce que oui, là, le plan séquence,
un film, ça c'est extraordinaire.
Un jeu en plan séquence.
Ça voilà, ça c'est une idée qui vient du cinéma, de dire.
Tout à fait, ouais.
Ça me fait penser.
Pas du coup, on suit l'aventure, ouais. Ça s'arrête pas.
En fait, c'est God of War, le dernier God of War sur PlayStation 4 et donc 5. À la seconde où vous le lancez, supposez que vous n'ouvriez pas le menu du début à la fin. En fait, c'est un plan séquence. La caméra suivra le personnage du début à la fin. Il y aura jamais de cut. Il y aura jamais de moment.
Pas de temps de chargement. Voilà.
Pas de plan de coupe.
Pas de temps de chargement, rien du tout.
Donc les temps de chargement sont camouflés dans des phases d'exploration.
De transition ou d'exploration, etc. Et ça, c'est une prouesse et ça vient forcément du cinéma parce que.
Ça, oui, ça c'est complètement du cinéma.
L'idée vient pas de la caméra qui tremble. Enfin, il y en a plein.
Oui, la Steadicam,
des astuces de mise en scène. Des trois, est-ce qu'il y en a d'autres des jeux, tant qu'on est dans cette typologie-là de jeux ultra narratifs et tout, est-ce qu'il y en a auxquels vous avez joué et auxquels vous avez été sensible un peu à l'image de, bah, une expérience de cinéma, quoi?
Moi, en l'occurrence, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé d'autres gens jouer parce que c'est l'expérience, justement, comme pour Détroit, d'être spectateur et de, ouais, comme un film, il y a le jeu Until Dawn.
Ouais.
Pareil, bon, c'est un petit peu la thématique horreur parce que y a des gens qui sont kidnappés, etc. Mais et un peu dans les teen movies, tous les, j'ai pas de nom qui me vient en tête,
comment il s'appelle,
Scream,
j'avais Projet X, non, c'est pas du tout ça, comment il s'appelait, Destination Final, non, Projet Blair Witch.
Blair Witch, ouais.
Projet Blair Witch. Ouais, plus là avec des jeunes qui partent tous dans le chalet des parents d'un et qui est riche, etc. Puis il y a des
et on va tous se séparer.
C'est, oui. Moi, je vais chercher.
Alors,
à la
personne
case.
Personne dans la même pièce.
Voilà, c'est vraiment le
règle numéro un. Personne.
C'est la règle du slasher. Tout le monde se sépare. Voilà.
En général, c'est en automne.
Et là, c'est en hiver.
Et alors, c'est très agréable de suivre en stream.
C'est ça. Soit en stream, soit moi, j'étais sur le canapé et c'était mon pote qui jouait. Voilà, et des fois, il me disait, bon, qu'est-ce que je fais? Je choisis ça ou ça? Parce que des fois, t'as plus ou moins de temps.
C'est pas des jeux auxquels j'ai envie de jouer, tu vois.
Ah ouais.
Je préfère regarder quelqu'un jouer, oui, que y jouer. Tu vois, c'est bizarre. Mais...
D'accord. Mais, ouais, moi, j'avais celui-là, c'est à peu près tout. Après, t'as aussi tous les, Walking Dead.
David Cage, j'en ai fait toute une flopée, hein.
Les Telltale, ouais.
Ah oui, il paraît que le Walking Dead est top, hein.
Telltale,
comment il s'appelait? Non, pas épisode 1. Non, si, comment il s'appelait?
Ouais, c'était ça, épisode 1.
Épisode 1?
Ouais. Je sais plus.
Ils ont fait les Batman, ils ont fait Batman en Telltale, c'est vrai qu'il était pas mal aussi.
Ils ont fait pas mal, mais bon, c'est pareil. Je pense pas que c'est le genre de jeu qui va te plaire à toi parce que c'est juste du choix.
Comment dire? J'ai du mal à appeler ça un jeu. Dans le sens où, en définitive, à part la phase où tu contrôles ton personnage, le temps de le faire se déplacer, pour le reste, le fait juste de choisir un embranchement, ça va me faire penser, ben, tu vois ce qu'a tenté Black Mirror quand vous l'avez fait,
oui.
Vous l'avez vu, Bandersnatch, le film où tu choisis plus ou moins des embranchements. Donc, je suis pas, comment dire.
Bah là, pour le coup, moi, je pense que c'est le jeu vidéo qui a inspiré cet épisode de Black Mirror.
Oui, je pense aussi. Mais voilà, mais à la limite, je trouve ça curieux, je trouve ça intéressant, mais comment dire, j'ai, à titre personnel, hein, et ça vraiment s'engage que moi, je préfère qu'il y ait une vision d'auteur forte avec un type qui me dise, j'ai pensé une expérience et je veux que tu la vives comme ça. J'ai pas envie de te donner l'impression que tu peux la vivre de 50 manières différentes. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui assume le fait de dire, moi, je veux vous raconter une histoire. Elle commence comme ça, elle se déroule plus ou moins comme ça. Au milieu, disons que les péripéties, vous pouvez les vivre plus ou moins dans l'ordre que vous voulez. Mmh. Mais à la fin, ben, j'ai quelque chose à vous raconter et ce quelque chose, c'est ça. Et j'ai l'impression que dans les jeux narratifs, enfin, dans les jeux à embranchement, la fin, elle est tellement ouverte. Enfin, bon, voilà, on peut avoir 50 fins différentes et je me dis, ça manque de jeu. Ça manque de vision d'auteur. Ça manque d'un mec qui me dit, j'ai envie de te faire vivre ça et qu'il assume, tu vois. Ça manque de, ouais, c'est presque, allez, on va contenter tout le monde et on va faire une fin pour chacun, tu vois. Mais c'est très personnel.
Mais c'est très compliqué à faire aussi, je pense. C'est pour ça aussi qu'il
Oui, je pense que c'est très compliqué
à faire.
Tu vois, The Last of Us, par exemple. Je pense à The Last of Us, qui a aussi beaucoup, beaucoup marqué par le cinéma.
Le cinéma, bien sûr.
Vraiment, hein. Mais le 2, il assume...
Il assume sa vision, voilà.
Il assume une vision violente, sans concession. Il détruit ses personnages et
mais le but doit apporter quelque chose, oui.
Et il te laisse pas le choix, il te laisse pas d'autre choix que de l'encaisser. Mais c'est fait pour te faire vivre des émotions fortes. Après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, mais n'empêche qu'au terme du parcours, ben, il y a quelqu'un qui a voulu te raconter quelque chose.
Quelque chose.
Et d'ailleurs, à la limite, je préfère ça, tu vois.
C'était beau, ça a beaucoup gueulé à sa sortie, parce que justement,
Et ils vont faire une série bientôt, hein.
Et puis.
Donc, voilà, toujours, comme disait Cécile tout à l'heure, le ping-pong entre les deux.
Ouais.
Une série, un jeu, voilà, donc, l'un nourrit l'autre. Je sais pas ce que ça va donner, mais.
Oui, parce que The Last of Us, et je le reconnais, tu vois, moi qui suis sensible au fait qu'on nous laisse le gameplay, j'avoue que le gameplay de The Last of Us est plutôt pauvre.
Oui, pas très,
enfin,
très
bon. Voilà, il est pas excessivement compliqué. Mmh. C'est globalement le même depuis Uncharted 2, hein, puisque c'est le même studio, Naughty Dog, qui fait les deux licences. C'est vrai que c'est assez pauvre en termes de gameplay, mais par contre, en termes de mise en scène.
Voilà, là, par contre, oui.
Faut le reconnaître.
Là aussi, c'est un film où tu peux participer, quoi.
Ouais. Alors, t'as un peu plus de latitude que dans les autres.
T'as plus d'action, mais finalement, t'es sur des...
Est-ce que c'est pas le bon format, ça, d'ailleurs, la série? Puisque justement, ben, c'est l'occasion d'en parler. Tu vois, The Last of Us arrive en série. Est-ce que si nous qui aimons le jeu vidéo, mais les autres qui, comme nous, par exemple, sont sensibles au cinéma, aimeraient aller au jeu vidéo, est-ce que c'est pas justement dans la série, en étirant comme ça le format du cinéma, qu'on va réussir, ou qu'on réussit déjà peut-être?
Tu pourrais peut-être, je pense, si
avoir
tu
des expériences qui commencent à se ressembler.
Tu développes d'autres personnages autour des héros, peut-être. On est agrandissant l'univers, tu vois.
Mais stricto sensu sur le format.
Ah oui,
est-ce que
format,
tu vois,
oui,
est-ce qu'un film c'est pas trop court pour qu'on arrive à se réapproprier un univers?
Bah, oui, comme The Witcher, la série The Witcher.
Non, j'ai pas vu.
La série The Witcher, bah c'est une série, donc elle prend bien le temps d'installer les personnages, l'intrigue, etc. Comme peut le faire le jeu vidéo et la narration sur une quinzaine d'heures ou plus. Pour moi, c'est un bon format parce que t'as le temps de développer les personnages sur une série.
Last of Us, je le trouve tellement inspiré par des films, La Route, Dernier Homme sur Terre, enfin.
Comment il s'appelle Une légende.
Voilà.
Non, il y en a un autre avec Clive Owen aussi, Le Fils de l'Homme,
excellent film.
Très très bon.
Donc le refaire, donc ça a été, ils ont beaucoup inspiré pour faire le jeu, et là ils vont refaire ça en film ou en série. Ça fait un retour en arrière encore.
Format plus long qui ressemble pas nécessairement à Walking Dead, qui raconte autre chose quand même. Parce que c'est autre chose. Bon, il y avait des personnages qui étaient travaillés autour de la thématique de la parentalité ou du deuil, etc.
Je sais pas.
Là, faudra voir les ça au centre.
Faudra voir quand ça va sortir. Faudra voir.
J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être naïf.
Ça sortira sur quelle plateforme? C'est Netflix qui fait la série?
HBO, donc probablement. Qui distribue HBO en France? C'est pas OCS?
C'est Orange, ouais.
OCS. Je crois que c'est OCS. Bien. Moi, j'ai envie de revenir sur MGS parce qu'il en a trop peu parlé. Et je sais que. Ils en ont trop peu parlé. Et je sais que c'est leur petit chocolat, leur petit caramel. Parlez-nous Kojima, racontez-nous un peu qu'est-ce que MGS a fait de différent par rapport aux autres jeux vidéo, à quel moment? Parce que moi je pense à MGS 2, hein, avant tous les autres.
D'accord. Déjà il a cassé.
Peut-être plus encore que le 1.
Il s'est amusé vraiment à...
Qu'est-ce qu'il fait différemment qu'est-ce qu'il amène du cinéma avec lui, MGS? Metal Gear Solid, pardon.
Déjà la mise en scène, déjà avec tous les angles de caméra différents, tu rentres dans une pièce, la caméra n'est jamais au même endroit. Une histoire assez riche avec des rebondissements comme dans un film d'action à l'américaine.
Tu peux nous donner quelques fils de l'intrigue, enfin quelques...
MGS 2.
Tirer quelques fils. Alors vraiment quelqu'un parce que...
Oui, non, parce que je dois fermer.
Parce que pour ça, voilà. Vous voyez ces grands panneaux d'enquête là dans les séries américaines avec des ramifications.
Avec des fils rouges partout.
Eh ben c'est pire. Donc on peut pas le résumer, mais voilà.
Vous jouez un agent secret, super héros quasiment, qui doit s'infiltrer dans une base tenue par des terroristes. où il doit libérer le président des États-Unis. Donc on est vraiment dans le cliché du film d'action américain total avec des méchants très caricaturaux.
Le derrière sur fond d'armée
Avec l'armée russe au milieu, avec les services secrets qui s'en mêlent.
Et des armées indépendantes supranationales.
Plus, voilà, plus une conspiration supranationale. Mais derrière tout ça, il y a un vrai message qui s'adresse aux joueurs.
Des disant, états au-dessus des états, des choses...
En disant, on joue pas un personnage, on joue vraiment le joueur. On est le joueur dans le... Kojima nous met notre place de joueur, en disant, vous n'êtes qu'un joueur dans un jeu vidéo.
Ah, tu penses qu'il renvoie le joueur à sa condition de joueur?
Complètement.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toutes les scènes. Je dis pas qu'il y a tort, hein, je me demande.
Toutes les scènes où tu parles avec l'intelligence artificielle, il y a le fameux colonel.
Ah oui, oui.
Où il te dit, t'as ta console, fais ci, fais ça, alors que c'est complètement dans l'ordre de ta, contraire à ta mission. Et il te fait comprendre que plus tu avances, il te fait ramène à ta condition de joueur, en disant, tu n'es qu'un joueur, tu n'es pas un Snake, tu n'es pas un héros, tu n'es que quelqu'un avec une manette dans un jeu.
Psycho Mantis le faisait très bien.
D'ailleurs, à la fin, quand le personnage enlève son dog tag, son collier autour du cou,
c'est sa plaque militaire.
Il y a le nom de ton joueur et le personnage du jeu jette le tag en disant « Je me libère du joueur, c'est plus toi qui me contrôle. »
Ça, c'était à la fin du premier?
À la fin du Metal Gear Solid 2.
Il jette son dog tag?
Il jette son dog tag, tout à fait.
Quoi que...
Raiden se libère du joueur.
Raiden tout nu sur les toits de New York? Non, il est plus tout nu à ce moment-là.
Non, il est pas tout nu.
Parce qu'il y a un passage où il est...
Il combat le troisième clone.
Il y a un passage juste avant où il est tout nu.
Il est tout nu juste avant.
Je me rappelle bien.
Ou justement, le passage où il est tout nu marque sa renaissance en tant qu'individu. C'est là qu'il se libère complètement de l'influence de l'armée américaine, de toutes ces organisations.
Dans son jardin d'Éden.
Où il renaît, mais il renaît nu. Donc il renaît nu. Il revient et il se débarrasse à la fin du
joueur. Je sais pas si c'est subtil, mais je l'avais pas vu, tu vois, donc...
Oui, c'est subtil, ouais.
Mais je sens que t'as creusé le sujet.
Non, en plus, bon, c'est un... Je sais pas si c'est un film qui est sorti juste avant... Un jeu qui est sorti juste avant le 11 septembre.
Ouais.
Il prévoyait de détruire les tours dans le 11 septembre. Ouais. Dans le jeu, il prévoyait de détruire les tours, donc ils ont dû refaire la fin en catastrophe parce que les tours ont été vraiment détruites, et donc il y a beaucoup d'influences historiques, philosophiques là-dessus.
Pourquoi tu penses qu'il est jamais arrivé au cinéma?
Je sais pas si vraiment il a envie de faire des films.
Kojima?
Je pense pas. Parce que tous ces jeux, il y a du gameplay.
On dirait quand même. Parce que tu vois, on prend Death Stranding, il prend des acteurs...
David Cage qui fait...
On parlera technique peut-être un peu en deuxième partie.
David Cage qui fait des trois films de Conan Humaine. Oui, lui, il veut faire du cinéma. Parce que la manette, on la touche quasiment pas. Alors que non, Kojima, lui, te met une manette dans les mains.
Oui, et en plus, moi, je trouve qu'il le fait souvent bien.
Souvent bien. C'est souvent parmi les meilleurs. Donc.
Mais tu trouves pas qu'il manque...
Je sais pas comment dire.
Il lui manque pas une étape pour. Enfin, il lui manque pas quelque chose. Il a pas envie d'aller au cinéma parce que franchement, il amène tellement du cinéma dans ses jeux.
Je sais pas si. Je sais pas.
Death Stranding pour ceux qui l'ont.
Oui, Death Stranding aussi, voilà.
Vu passer, il y a Léa Seydoux notamment et Norman Reedus qui.
Oh, il y a de vrais acteurs.
Matt Mikkelsen, ouais, voilà. Il y a de vrais acteurs qui ont participé. D'ailleurs, si vous jouez au jeu, vous allez retrouver les visages des acteurs que vous avez peut-être déjà vus.
Oui, c'est les acteurs.
Ailleurs, donc. C'est curieux d'avoir cette tendance à amener autant du cinéma dans le jeu vidéo.
Ouais, mais je pense
qu'il n'y a pas une petite forme de frustration ou de.
Il joue avec les codes du jeu vidéo à chaque fois. Il déconstruit les jeux pour montrer qu'on n'est que des joueurs finalement.
Est-ce qu'il le fait mieux que Nier Automata?
Il le fait aussi bien en tout cas.
Non, il
le fait aussi bien. Je pense
Beaucoup moins de codes du cinéma, non?
C'est-à-dire, je pense que les deux doivent se connaître. Ils ont dû manger une fois d'ensemble parce que.
Taro Yoko.
Pardon pour les japonais.
Donc ouais, non, tu penses qu'il n'ira jamais au cinéma?
Je pense pas, non. Non, parce que tous ces jeux nous montrent qu'il adore le gameplay. Il nous fait des jeux où on peut faire plein de choses, plein d'actions.
On peut temporairement le laisser de côté. Parce qu'il a vraiment des idées de cinéaste.
Ouais, mais je sais pas si vraiment au fond de lui, il a
des scénarios.
Je sais pas. Il utilise tellement le jeu vidéo dans ses jeux pour... il casse le quatrième mur, il s'amuse à jouer...
Tiens, casser le quatrième mur, on raconte à nos auditeurs. Alors moi, je crois que j'ai la meilleure, j'ai le meilleur exemple de casser le quatrième mur pour ceux qui ont vu House of Cards. Le personnage principal de comment il s'appelle Frank Underwood. Il s'adresse directement au spectateur. En
voilà.
Fait. De temps en temps, ses yeux lâchent ce qu'il est en train de faire ou la conversation qu'il est en train d'avoir et il donne l'impression de regarder directement le spectateur et de s'adresser à lui. Donc casser le quatrième mur, c'est ça en fait. C'est quand le jeu vidéo ou le cinéma, enfin peu importe.
Parle au spectateur.
Temporairement, voilà, s'adresse directement au spectateur et fait temporairement, explose temporairement l'écran la vitre qui peut nous séparer d'eux, quoi. J'aimerais juste venir au film, si vous me permettez, qui parle énormément de jeux vidéo. Celui qui me vient tout de suite en mémoire, il y a deux exemples très récents qui me viennent en mémoire. Stranger Things, est-ce qu'ils surfent pas sur une vague
culture geek
rétro, oui. Voilà. Et alors, moi je la connais pas, donc je vous laisse en parler avec plaisir.
J'ai pas vu non plus.
Et Ready Player One pour ceux qui l'ont vu.
Alors, alors je pense qu'il y a deux manières de faire.
Pour Spielberg.
Ready Player One, c'est la mauvaise manière.
Ah ouais.
Quoi? Je suis outrée.
Je veux qu'elle te réponde. Je souhaiterais qu'elle.
Alors, de mon point de vue, pour moi, Ready Player One, c'est nous balancer tout à la figure. Je vous mets des références toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes. Mais est-ce que ça apporte quelque chose vraiment à l'histoire?
C'est une lettre d'amour.
Non. C'est pas une lettre d'amour. C'est, il te crache la figure. Là, tu vois, là, il y a un Pokémon. Là, il y a Hulk. Là, il y a machin.
Je suis tellement pas d'accord.
Mais est-ce que ça fait avancer l'histoire, tout ça? Non.
Ah ouais, non, je suis pas d'accord.
Si il enlève tous les personnages qui sont là pour faire joli. Est-ce que l'histoire, ça joue? Non.
Non, parce que pour moi...
Si vous répondez, monsieur. Réponds, monsieur.
Je suis prêt.
L'idée pour moi... Alors, ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, donc voilà, mais j'en garde un très, très bon souvenir. L'idée pour moi, c'est Ready Player One, en fait, tu peux incarner qui tu veux. Donc, forcément que si t'es fan de Lara Croft, eh ben ton avatar, ça va être Lara Croft, tu vois.
Oui.
Et c'est sûr que... Il aurait pas pu faire ce film sans mettre toutes les références.
Alors, c'est un film de Spielberg. C'est un film de Spielberg, en fait, qui, d'ici quelques années, quoi, 2040, 2050.
Ouais,
enfin, bref, les individus se retrouvent dans un monde virtuel en mettant un casque de réalité virtuelle et ils s'y retrouvent en incarnant, ben, voilà, un avatar, hein, de, comme un Disibou qui ressemble un peu
à ce qu'on veut.
Et ils se retrouvent dans ce monde virtuel pour y vivre toutes sortes d'expériences qu'ils ne peuvent plus vivre. Puisque de toute façon la planète semble être complètement
foutue,
inhabitable ou en tout cas pas enthousiasmante pour dessous.
Ou la vraie vie est pas très drôle.
La vraie vie est pas drôle du tout et donc ils s'y retrouvent les uns et les autres dans ce monde virtuel pour faire tout ce qu'ils aimeraient pouvoir faire et ils s'offrent un peu le destin qui.
C'est triste.
Non mais il y a une part de tristesse. Moi,
c'est triste.
Ah, oui.
Le film est triste quelque part parce que.
Oui.
Mais peu importe qu'il soit triste.
On voit
pas, la question
de
c'est
une personne qui leur seul but dans la vie c'est se connecter à un jeu vidéo. C'est super triste.
Mais la fin justement non.
Non mais tout le long du film on voit que ça et des références partout. On te balance ça à la figure. J'ai trouvé ça très trop
choral.
Trop
de fan service.
Ouais bah oui beaucoup trop de fan service.
Ouais tu vois. Mais alors moi j'ai bien aimé cette idée que Spielberg. Enfin pour moi c'est Spielberg qui regarde ces années là. Et qui se dit bon, la culture pop, on en est tous imprégnés, oui. Puisque qui que vous soyez, qui nous écoutez, si vous regardez ce film, vous allez trouver 1000 références qui vous parlent.
Ah oui,
il y en a plein. Et il y a des références au cinéma, pas qu'au gaming. Hein. Il y a des références à Shining, il y a des références à.
Mais combien de fois nous l'a fait Spielberg ça?
Quoi donc?
De s'inspirer des années 80-90 pour nous le remettre dans la figure.
Non, mais juste, mais moi je pense que
c'est son fond de commerce à Spielberg.
Ouais,
mais que ça.
Là, c'est presque un hommage.
Il souffre constamment sur la nostalgie, sur que c'était mieux quand on était enfant. Ouais, mais c'est bon, tu nous l'as déjà dit, quoi. On le sait.
Non, mais t'as une dent contre Spielberg.
J'aime bien ses films, je les regarde, mais je vois que il évolue pas.
Tu préférais la liste de Schindler?
Ben oui. Non, au moins, il passe à l'âge adulte avec ce film.
J'aime beaucoup la liste de Schindler.
Non, mais c'est même un passage à l'âge adulte. Là, c'est des vrais problèmes. Il raconte une autre histoire, mais une vraie histoire. Pas des histoires, c'est bon, la nostalgie, oui, d'accord, c'est bien, mais.
Non, mais d'aller faire vibrer la fibre nostalgique. Pour moi, la fin est intelligente parce qu'elle dit. OK, on a tous une culture populaire. Parce que c'est vrai. On n'est pas obligé d'être tous amateurs d'art, tu sais, d'art au sens noble du
mais
terme. La culture populaire, elle est là, elle s'installe. Et honnêtement,
elle est partout maintenant.
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a. Tu vends des bandes d'arcade, ok? Alors,
tu sais
de quoi je parle.
Ah non, bien sûr.
La culture pop et la culture rétro, elle est là et elle est bien installée depuis quelques années.
Puis ça parle à toute catégorie.
Voilà,
personne,
ça parle à tout le monde.
Il y a plus de limite maintenant. Il y a plus de limite.
C'est même pas pédant, tu vois. En plus, c'est ça qui est chouette avec la culture pop, c'est que on te demande pas d'être.
Ah, tout le monde peut porter une casquette Mario maintenant.
Voilà, on te demande pas d'avoir des références ultra raffinées, machin, d'aller faire des galas, des vernissages. Cette forme de culture, elle peut être aussi...
Bien sûr, oui, elle est là, bien sûr. Elle fait partie du quotidien.
Elle peut être... je ne sais pas si elle doit être anoblie, mais en tout cas, voilà. On peut au moins la reconnaître en tant que telle. Moi, je trouve que c'est intelligent de poser la question à la fin, de dire, bon, c'est bien, qu'est-ce qu'on en fait?
Oui.
Parce que pour moi, il sert à ça, ce film.
Qu'est-ce qu'il a fait, Spielberg? Rien. À part nous balancer des références toutes les 10 secondes,
Je trouve qu'intelligemment, il pose la question, tu vois.
Ça te fait pas réfléchir sur ce qui se passe maintenant avec le métaverse? Parce qu'en fait, c'est Ready Player One qui est en train d'arriver.
Mais je sais pas. Je sais pas.
Toi, Zuckerberg et son metaverse, tu t'en veux d'y aller?
Non.
Non,
non, surtout pas.
Voilà.
Non, non, surtout pas.
Mais justement.
Mais je enfin, peut-être que c'est Philibert me gonfle depuis le temps. Peut-être,
c'est,
hein, c'est moi aussi qui.
C'est ça, la vérité.
Quand on est ras-le-bol de ces tripes nostalgiques, peut-être, hein. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait trop, voilà.
Mais quel trip, à quel autre trip nostalgique de, puisqu'on parle cinéma, tu penses
parce
à quel trip nostalgique?
Tous ces personnages, les héros, c'est des enfants qui se battent contre des adultes, et c'est toujours les enfants qui sont gentils, les adultes sont méchants.
Bon?
Bah, E.T., je sais pas, E.T., c'est des
enfants. Oui, mais c'est pas le Spielberg récent,
Mais pour te dire que ces histoires, c'est toujours les mêmes, finalement.
Alors, mais
après, c'est Schindler, bon,
je vais le laisser s'énerver, je vais chercher la filmographie de Spielberg.
Je m'énerve pas.
Je suis sûr que, non, je plaisante, hein. Je plaisante, évidemment.
Donc, c'est vrai qu'il met souvent les enfants.
Les enfants en qui sont purs, qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires, et les adultes sont toujours méchants, toujours.
Les enfants sont des êtres purs et merveilleux, et extraordinaires.
Oui, certes.
Le mec,
c'est vrai.
Le mec défend sa parole.
Il y a des adultes qui sont très bien aussi, là, j'en vois trop autour de moi, qui sont très bien, et qui cherchent pas à faire du mal.
Donc, parce qu'on est encore des enfants.
Voilà, peut-être. Mais peut-être
on joue aux jeux vidéo.
Alors peut-être que c'est la pop culture qui nous permet.
Ah, des cheveux colorés, ok. Tu vois, c'est la pop
culture. C'est peut-être la pop culture qui nous permet de rester bienveillants. Voilà. Parce que là, Hitler, dis-le.
C'est la pop culture qui nous réunit aujourd'hui.
Tout à fait, mais je crache pas dessus.
Mais après, je pense que c'est vraiment ton problème, entre guillemets, avec Spielberg.
Ouais, il faut que je l'appelle, il faut que je règle ça avec lui.
Parce que pourquoi?
Je pense qu'il y a un Oedipe qui n'a pas été fait avec.
Je sais pas.
Il y a un Oedipe.
Steven, faut pas. Steven, faut qu'on parle.
Sur la musique, on peut prendre n'importe quel musicien, on va pas lui reprocher de faire tout le temps la même chose, ou si c'est le cas, bah c'est parce que t'aimes pas l'artiste. Si Jamiroquai qui fait de la funk, on va lui dire ah oui, mais il sait faire que ça. Bah oui, c'est son créneau, il aime ça, il fait ça. Ouais. Et bah Spielberg, son créneau c'est les années 80.
C'est bon, t'as un problème avec lui. Alors,
donc
c'est bon, t'as un problème.
Donc
si je le vois voilà. Du casse, il même pas.
Steven, rendez-vous à 17h sur le parking de l'Atrium.
Octogone. Par contre, moi, une utilisation intelligente de la pop culture dans un film, c'est Scott Pilgrim. Je sais pas si vous avez vu ce film.
Je l'ai pas vu, j'ai regardé.
Alors, c'est un film qui a pas très bien marché au cinéma, mais qui a plus marché en vidéo à la VOD. L'utilisation des codes du jeu vidéo et de la pop culture en général est intégrée à la narration. Et là, ça marche mieux. Et là, pareil, t'as une référence toutes les 30 secondes. Mais elle est moins jetée à la figure du spectateur. Et tu l'apprécies plus, en fait. Alors, des petites idées de, t'as le personnage a une barre de vie, voilà, l'acteur a une barre de vie au-dessus de la tête parce qu'il combat, voilà, des petites idées comme ça, des mises en scène, qui font que ça s'intègre mieux.
C'est vrai que c'est discret.
Et oui, mais c'est plus intelligent, en fait. Tu vois, c'est pour dire, je mets de la pop culture dans mon histoire, mais je vous la mets de manière plus subtile.
Il y avait un film récent avec Ryan Reynolds, Free Guy, je sais pas si vous l'avez vu.
Free Guy, ouais.
Non.
Non, je l'ai pas vu non plus.
Donc, a priori, c'est pareil, ça traite.
Voilà, on est dans un jeu vidéo, ouais, c'est pareil, ouais.
Totalement. Après, pour revenir très rapidement sur Stranger Things, je pense qu'il n'y a pas de lien du tout pour moi avec l'univers du jeu vidéo. C'est plus la nostalgie des années 80, du jeu de rôle papier.
Ouais.
Mais c'est tout. Alors certes, c'est un monde fantastique avec des monstres et tout, mais ça, c'est pas propre au jeu vidéo. Voilà.
Non, voilà, moi, je pensais davantage à la...
Mais ils sont pas vraiment fans de jeux vidéo, les personnages dedans. Je crois pas.
Chaque épisode commence avec le jeu de rôle, Donjons et Dragons.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est plus ça, en fait.
Et après, c'est vraiment un amour... d'amour pour les années 80, plein de références. Pas forcément lié aux jeux vidéo.
Non, voilà, moi, je vous avoue que je l'ai pas, enfin, si j'avais vu la première saison et puis j'avais assez rapidement décroché, mais je vous posais la question parce que je sais pas pourquoi dans mon esprit, forcément.
C'était relié.
Voilà, les néons, du violet, du rose et, non, mais c'est vrai, hein, tu vois.
Oui, c'était vraiment l'univers.
Oui, souvent, ouais,
ouais. L'iconographie des années 80.
Bon, les pires ratés, on se laisse là-dessus pour cette première partie d'émission, les pires ratés. Les pires ratés du cinéma en lien avec
Cyril
les
avait,
ou les jeux les plus ratés inspirés.
Cyril m'en a parlé en off et il m'a dit qu'il avait 2-3 noms.
Ah ouais.
Pour moi, le piratage, ça serait toute la série Resident Evil,
ouais.
Fait par le réalisateur Paul W.S. Anderson et sa femme Mia Jovovich.
Ah c'est sa femme.
Oui, c'est sa femme, oui.
Ah c'est pour ça qu'elle est partout.
Eh oui.
Donc c'est pour ça qu'elle est partout.
C'était la femme de Luc Besson.
Ah, elle ne tourne qu'avec ses maris, quoi.
Avec ses futurs maris, oui.
Il n'y a que ses maris qui la font.
Ouais, elle tourne avec ses... Voilà, attention.
Bien.
Non, et puis je trouve que c'est dommage.
J'avais une horrible affaire.
Pas de sexisme, attention, quand même.
Et là, si j'étais...
Non,
je la ferai pas.
Tu la feras. Tu la coupé.
Donc, Resident Evil catastrophique, tous.
Pour moi,
alors, Monster Hunter aussi, hein, Mila Jovovich, hein. Catastrophique, hein.
Le même duo, et
c'est catastrophique. Ah, voilà, parce que c'est...
Je pense que lui, il peut prendre n'importe quel... saga de jeux vidéo ou autre, et puis dire, bon, je mets ma femme en tant qu'actrice principale, ça va être la super héroïne, et puis regardez-la, comme elle est forte, comme elle est belle, et puis.
Et vomissez, jetez tout ça à la poubelle à la fin, quoi.
Donc, ce qui est dommage, c'est Resident Evil, oui, je pense que tous sont grands fans, quasiment. Et le matériel de départ est assez simple, hein, peut-être nanardesque, le scénario, juste une invasion de zombies. Et puis, voilà, ça suffit. Je pense qu'une fois bien traité, il aurait pu faire beaucoup mieux.
Il y a des façons de traiter ça. Enfin, ça peut être un prétexte pour faire un bon film aussi. Hein. Il y en a un, d'ailleurs.
Bien sûr. Après, je pense que le défaut principal, c'est la liberté scénaristique qu'il a voulu prendre, avec un côté un peu plus, avec une IA artificielle qui prend le contrôle. Tout ça, bon, c'est une direction qu'il a choisi le réalisateur, mais qui colle pas du tout avec l'ADN de Resident Evil au départ.
Ouais, puis en plus, bon, les effets spéciaux sont catastrophiques. Enfin,
oui.
Le liqueur est dégueulasse.
Il ajoute un personnage qui n'existe pas dans la licence au départ, qui est Alice. Hein. Et oui, c'est une super héroïne. Après, plus les films passent, plus elle a des pouvoirs en plus.
Plus dans ça marche plus, quoi. C'est plus l'ADN.
Il n'utilise que le nom, en fait. Ouais.
Alors, j'ai un top 25 des pires ratages vidéoludiques au cinéma.
Un top 25.
Bon, le Super Mario est évidemment en top. Ben, c'est pas moi qui vous le fais. Hein.
Cyril le défend, attention.
Il nous est proposé...
Vous voyez que la nostalgie, c'est pas
Street
tout.
Street Fighter avec Ultime Combat avec Jean-Claude Van Damme.
Non, mais il y a Jean-Claude Van Damme. Ça sauve le film.
Kylie Minogue.
Ah ouais?
Jean-Claude Van Damme.
Eh oui.
D'accord. Ok.
Après, ce qui est marrant.
Non, parce que moi, je le trouve bien dans JCVD, mais ailleurs, bon. Si t'es fan de films de combat. Tiens, d'ailleurs, la baston, c'est vrai que c'est un genre peut-être. Alors, je sais pas si qui a influencé qui exactement. Mais ouais, tu sais le principe du film un peu tournoi, un peu façon Bloodsport et tout.
C'est Bruce Lee.
Voilà l'effet des Bruce Lee, etc. Où t'as des successions de combats, etc. Je sais que on va parler de Kill Bill peut-être en deuxième partie. Des combats qui se succèdent et tout. C'est un genre très particulier, mais qui a fonctionné au cinéma et qui fonctionne aussi en jeu vidéo. On a Alone in the Dark qui est proposé. Je n'ai pas vu le film, donc je peux pas en parler. Max Payne, Tomb Raider, on en a parlé. Je fais du name dropping comme ça, je lâche et puis vous réagissez ou pas d'ailleurs.
Moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas Matrix 4 en top 1 de ce classement.
C'est du réchauffé, c'est dommage. 1, 2, 3 suffisent amplement.
Oh là là, pour moi, c'est le pire.
Moi, il vient pas du jeu vidéo.
Moi, je l'ai même pas regardé.
Il est très influencé.
Bah, tu as vu le 4?
Oui.
Oui.
Mais
ben, pour moi, ça a détruit toute la saga de Matrix parce que je suis une fan inconditionnelle de Matrix. J'y suis allée justement en n'en attendant rien parce que, comme je disais tout à l'heure, d'avoir trop d'attentes, après, t'es forcément déçu.
Tu peux être déçu en n'attendant rien?
Ouais.
T'imagines à quel point le film est mauvais, quoi. J'en attendais rien et j'étais.
Et quand même déçu.
C'est un cracker, quoi.
C'est ça. Mais moi, je pense que ça m'a fait l'effet que toi, t'as fait le Ready Player One, dans le sens où, voilà, c'est du réchauffé, ils te rejouent les scènes de l'ancien, ils te font croire que, du coup, Matrix 1, en fait, c'était un jeu vidéo et c'était le héros qui était créateur du jeu vidéo.
Ça marche pas, quoi.
Non, c'est horrible.
Non, ça fait un peu Poupée Gigogne.
Moi, je l'ai boycotté.
Ça fait un peu Poupée Gigogne ou Inception.
Totalement.
La boîte qui est dans la boîte, qui est dans la boîte, je suis le créateur de la boîte du dessus, il y a un moment, vous êtes gentil avec vos imbrications, mais ça marche plus.
Et je connais des gens, des copains streamers qui ont adoré et qui sont,
et qui t'en veulent beaucoup.
Qui revendiquent le fait de, vous cherchez trop loin ceux qui, voilà, c'est que vous êtes pas vraiment fan de Matrix. Si, je suis fan de Matrix.
Parce que tu es fan de Matrix.
et pour moi, ça tout détruit, sans compter les effets spéciaux nuls à chier. Enfin, il y a beaucoup de trucs super bien, mais le grimage de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui revient en plus vieille dedans.
Ah, je m'en rappelle.
Oui, bah tu vois, elle est tellement mal grimée que on voit vraiment
le
masque en plastique, tu vois, avec les fausses rides et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on a.
Alors au moins ça a donné lieu à un truc pour les possesseurs de consoles next gen, hein, Xbox 3, comment elle s'appelle, Series X.
Oui.
Xbox Series X ou S d'ailleurs, peut-être ça tourne sous S. Et PS5, ça a donné lieu à la démo Unreal Engine 5.
Ouais. Oui. C'était beau.
Qui elle, pour le coup.
Ah oui, oui. Bah, de voir des jeux avec ça. Oui,
mis une grosse claque. Mais voilà, le seul héritage vidéoludique à retenir de ce Matrix
4.
Comment il s'appelait? Resurrection.
Resurrection.
Ah oui, revit, c'est ça.
Ouais. La résurrection, ouais. Matrix 4.
Resurrection. Donc, il aurait mieux fait de rester dans le cercueil.
Oui, ou de faire le film avec sa sœur. Comme, parce que là, il y en a qu'un des deux qui a fait le film.
Ah, il y a qu'une des Wachowski. Ouais.
Donc, il manquait le côté rationnel.
Bien. Bon. On mettra un terme à cette, on met un terme à cette première partie d'émission. On vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés.
Merci.
On remercie nos participants du jour. Merci Fred.
Je t'en prie. Merci Maxime.
Merci Cyril.
Merci à toi.
Merci Cibou.
Merci
à toi. Et puis on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission entre nous tout de suite. Et puis pour vous qui nous écoutez sur RCC d'ici la semaine prochaine. Merci. Ciao à tous. Ciao.
Ciao.